RCF. Vous écoutez RCF, c'est l'heure du 18-19 en région, Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver le jeudi à 18h10 pour vous accompagner pendant une cinquantaine de minutes et vous faire vivre l'actualité locale, l'actualité régionale, mais décortiquer aussi parfois ce qu'il se passe à l'international. Est-ce que c'est 3-4, on recommence. Et c'est ce que l'on va faire ce soir avec notre chroniqueur Gérard-Marie-Henri. Voilà, on a rembobiné la cassette, tout va bien Gérard-Marie, bonsoir.
Bonsoir.
C'est parce que j'avais l'eau à la bouche, j'étais en train de m'imaginer manger, croquer dans le Big Mac, c'est ce dont on va parler, la nouvelle recette de McDonald's, Gérard-Marie.
Oui, on va parler.
Allez, on vous laisse reprendre vos esprits aussi, Gérard-Marie. Mélissa est avec nous, Mélissa, bonsoir.
Bonsoir.
On vous retrouvera pour la page météo.
Bien évidemment.
Et les tendances demain, ça sera comment ?
Bah, toujours pareil, malheureusement.
Vous nous dites ça tous les soirs. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, le ciel était un petit peu plus bleu que les prévisions annoncées quand même hier.
Oui, mais quand vous avez chanté ce matin, ça peut changer.
On en est là. Allez, on retrouve Gérard-Marie-Henri qui a repris ses esprits. Gérard-Marie, l'indice Big Mac, on en parlera davantage dans quelques secondes. Mais globalement, c'est McDonald's qui change sa recette.
Oui, alors McDonald's France, après l'Australie et les États-Unis, a décidé de changer la recette du Big Mac. Le Big Mac, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, 1968. Et en travaillant un peu sur le sujet, en fait, je me suis aperçu que celui qui avait inventé le Big Mac, en fait, a reconnu qu'il avait copié sur une autre chaîne américaine qui s'appelle Big Boy, qui faisait un truc exactement à deux tranches avec trois morceaux de pain, etc. Et donc, ce Big Mac, eh bien, il se vend un petit peu moins. On en vend 105 millions en France, mais le chiffre d'affaires de McDo France, eh bien, stagne. Et donc, pour essayer de redynamiser face à la concurrence, puisqu'on a Burger King, on a Quick, sur le même créneau, qui ouvre beaucoup de magasins. Je crois que Burger King doit en avoir 500, Quick doit être à 150. Alors évidemment, c'est petit par rapport à McDo France qui fait à peu près 1500 restaurants. Mais donc, McDo France a décidé d'investir pour faire un changement de son produit phare, celui qui est acheté essentiellement par les consommateurs quand ils vont chez McDo. Très souvent, c'est ce qu'ils prennent.
Alors moi, Gérard-Marie-Henri, si je parle à la première personne, je suis un consommateur conservateur. Ça veut dire que lorsqu'on change mes habitudes et mes repères, ça fait une trentaine d'années que je vais au McDonald's, que je prends le Big Mac en tout cas chez McDonald's, j'ai pas tellement envie que ça change cette recette. Alors finalement,
oui, alors c'est
est-ce
ça.
Que c'est une bonne idée ?
Bon, alors c'est le problème qu'on a eu avec Coca-Cola. Peut-être que vous vous souvenez qu'à un moment donné, Coca-Cola avait décidé de changer sa formule. Et puis il a été obligé de revenir en arrière. Il a gardé la nouvelle formule, mais il a réintroduit ce qu'il appelle le Coca-Cola classique, celui qui est fait comme c'était fait pratiquement au 19e siècle.
La tradition d'antan.
La tradition d'antan. Alors donc là, ce que dit McDo France, c'est en fait que les changements ne vont pas bouleverser les consommateurs. En fait, au contraire, le consommateur devrait être content puisque le produit va être plus chaud, il y aura plus de sauce, la viande va être plus cuite, il y a une cinquantaine de modifications, on va pas les évoquer toutes, mais théoriquement, le consommateur devrait dire « j'en ai pour mon argent ». Alors évidemment, on voit pas lui souligner qu'il prendra beaucoup plus de calories encore parce qu'il y a plus de sauce. Mais normalement, il devrait être satisfait. Alors, il y a quand même le risque déjà du côté du consommateur, ce que vient d'évoquer Alexis, le consommateur qui va pas trouver exactement pareil, qui peut dire « moi, j'aimais mieux le truc d'avant ». Puis alors, il y a le deuxième problème, c'est que ce nouveau hamburger, ce nouveau Big Mac, il est plus difficile à faire pour les équipiers qui sont dans les restaurants.
Donc, le temps de production peut être impacté.
Ah oui, absolument. Ils vont avoir à sortir plus tôt la viande du frigo, à cuire plus longtemps le pain pour qu'il soit plus chaud, etc. Donc, ils vont débiter moins vite. Et donc, pour faire face à l'affluence, quand il y en a, ils vont être un petit peu saturés. Et donc là, il y a un problème de gestion humaine. Alors, ce que fait McDo, c'est évidemment les entraîner à ces nouvelles techniques, à modifications. Même quelques secondes de plus, ça compte beaucoup. Hein. Je ne sais pas si un jour...
Moi, à l'échelle du nombre de Big Mac produits chaque jour.
Oui, moi j'ai fait une journée, la journée du fondateur. J'avais été invité par un responsable et j'ai passé une journée chez McDo à faire les trucs. Et c'est pas évident, quoi. Alors évidemment, moi je partais sans trop de formation. Mais même en fin de journée, je voyais qu'il ne fallait pas chômer pour arriver à mettre les trucs les uns sur les autres, presser, etc. Et donc là, il y a rallongement du temps pour les producteurs.
Gérard-Marie Henry, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un sandwich devient un plat iconique ? Aujourd'hui, lorsque l'on pense McDonald's, oui, on pense Big Mac.
Absolument, absolument. Mais là, parce que c'était quand même bien vu, donc c'est cette chaîne américaine qui s'appelle Big Boy qui avait inventé ce truc, et là, elle a pas mal tourné. Alors, elle a pas eu la force de frappe de McDo, mais McDo, avec son nombre de restaurants dans le monde, et le fait qu'il a une qualité de fabrication qui est quand même très constante, c'est-à-dire vous allez dans un McDo en Hongrie, en Bulgarie, enfin dans d'autres pays, vous retrouvez le Big Mac absolument semblable, enfin ou avec des différences imperceptibles. Et donc il y a ça qui fait que un produit devient vraiment attachant, c'est parce que vous avez vraiment une qualité constante, un repère. Des prix sont quand même assez bas, et donc vous avez quelque chose qui va vous laisser quand même un souvenir qui doit être pas trop mauvais, même si c'est de la malbouffe.
Et ça fait une dizaine de jours maintenant que ce nouveau Big Mac est lancé dans les McDo de France.
Tout à fait, tout à fait. Mais il a déjà été expérimenté, comme je le disais tout à l'heure, en Australie et aux États-Unis. Donc, on sait que ça marche quand même. Mais vous voyez que le vrai problème, c'est le ralentissement de ces chaînes de restauration rapide. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a changement du comportement du consommateur? Est-ce que le consommateur veut aller dans d'autres restaurants? Est-ce qu'il est saturé, etc.? Mais McDo veut continuer à ouvrir des magasins en France. Hein. On prévoit toujours à peu près entre 30 et 50 ouvertures nouvelles. Donc, ils pensent qu'ils ont encore le vent en poupe.
Le fait de changer la recette, est-ce qu'il y a aussi une influence sur le coût de production? Parce que, par exemple, on parlait d'une main-d'œuvre qui peut être un petit peu plus longue pour la fabrication.
Absolument, absolument.
Donc, ça va l'impacter. Si aussi on fait chauffer le pain avec plus ou moins de temps, il y a le coût de l'énergie aussi
absolument,
qui rentre
absolument.
En jeu. Le coût des produits, est-ce que le coût de production du Big Mac change
va augmenter, mais McDo pense, enfin, sur les expériences qu'il a faites aux États-Unis, en Australie, pense que s'il arrive à tirer plus de consommateurs, l'augmentation marginale du coût de production va être compensée par le fait qu'il aura plus de produits à vendre et donc un chiffre d'affaires qui va améliorer.
Un chiffre qui fait tourner la tête, le Big Mac en France, c'est 105 millions de Big Mac vendus par an en France. C'est énorme.
C'est énorme, c'est énorme. Pour un pays qui est un petit peu anti-américain, c'est absolument fabuleux, quoi. Quand on pense qu'il y a un pauvre, vilain personnage qui s'appelait José Bové, qui avait fait détruire un McDo, et qu'en Bretagne, pas très loin de l'endroit où j'habite, il y a eu un attentat dans un McDo où une personne qui y travaillait a été tuée. On se dit, c'est quand même incroyable que McDo en France ait une telle audience, une telle réussite avec, comme tu le disais, 105 millions de Big Mac vendus.
Gérard-Marie Henry, on aura l'occasion dans des prochaines chroniques, les prochaines semaines, notamment pendant les vacances scolaires, de parler de l'industrie McDonald's, ce que ça représente en France, leur coopération, leur collaboration aussi avec les agriculteurs.
Absolument.
Parce qu'ils font aussi travailler les agriculteurs locaux. Mais on a une question qui concerne vraiment l'économie, c'est que le Big Mac, on sait que c'est un indice dans le monde de l'économie en général, à travers le monde entier.
Oui, alors ça permet de comparer les prix dans les différents pays, puisque c'est le même produit. Donc normalement, il devrait être au même prix en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, au Japon, en Chine. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des différences de prix importantes qui nous disent que les valeurs des monnaies de ces pays-là sont soit surévaluées par rapport au dollar. Le franc suisse est très fortement surévalué. Donc quand vous achetez un Big Mac en Suisse, vous le payez presque deux fois ce que vous payez aux États-Unis. Et au contraire, il y a des monnaies qui sont très sous-évaluées. Quand vous achetez un Big Mac à Pékin, ben vous le payez presque deux fois moins cher que ce que vous le payeriez aux États-Unis. Donc la monnaie chinoise est une monnaie qui est assez fortement sous-évaluée, ce qui permet à la Chine d'exporter facilement.
Mais vous qui êtes un globe-trotteur, Gérard-Marie Henry, est-ce que le Big Mac est vraiment le même dans le monde entier?
Oui, dans tous les pays que je connais, il y a vraiment des changements très faibles. Il n'y a qu'en Inde où, comme les Indiens ne mangent pas de bœuf, le Big Mac est au poulet. Et donc là, il y a vraiment un changement radical.
C'est pas le même goût.
Ça n'a pas tout à fait le même goût, mais on a autrement une très grande stabilité. D'ailleurs, McDo International surveille ce que font les filiales McDo des différents pays pour s'assurer qu'elles restent dans les clous et qu'elles ne font pas trop de variations. Alors évidemment, il y a quand même des changements qui arrivent. Par exemple, en France, chez McDo, vous pouvez boire une bière. C'est évidemment pas le cas aux États-Unis.
Voilà, ça fait partie des changements, des adaptations locales dans chacun des McDonald's, des franchisés, et puis même de ceux qui dépendent directement du groupe McDo. Merci Gérard-Marie Henry de nous avoir éclairé sur la nouvelle formule du Big Mac, et bon appétit, mais en temps de carême, on se préserve un petit peu quand même.
Bien sûr, à bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
18h20 sur RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. Le programme ce soir, dans quelques instants, on va retrouver un maire qui nous parle. On parlera également sport avec le coach de l'Étoile de Charleville-Mézières, Jimmy Plogaert, qui sera notre invité pour évoquer un rendez-vous, un choc dans huitième de finale du Trophée Coupe de France pour l'Étoile de Charleville-Mézières face à Pays de Fougères, un club breton. Le rendez-vous, c'est ce samedi. On rendra aussi hommage au père Nicaise Rousseau, qui est décédé à l'âge de 87 ans. Ses obsèques étaient célébrées aujourd'hui. Le père Thierry Bettler sera avec nous en deuxième partie d'émission, et puis on présentera une initiative intéressante du théâtre pour vaincre la mucoviscidose avec Pascal Leblanc et Francis Faverdin. Tout cela, ça sera après le journal régional. Mais à 18h21, ce que je vous propose tout de suite, c'est de retrouver un maire direction Bouleuse dans la Marne avec Patrick Simon qui nous parle avec Jean-Pierre.
Patrick Simon, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous présenter un peu votre commune de Bouleuse? Combien d'habitants à Bouleuse?
Alors, 230 habitants, on va dire, avec les derniers qui vont arriver. C'est une commune qui se développe tranquillement. On n'a pas souhaité avoir une extension massive. D'ailleurs, bon, je vous expliquerai, chemin faisant, je pense, pendant l'interview, les difficultés liées au PLU.
Plan local d'urbanisme.
Plan local d'urbanisme, oui. qui va devenir intercommunal.
D'accord.
Et pour le coup, ce plan local d'urbanisme, il génère, au travers des lois gouvernementales aussi, un certain nombre de restrictions, dont on aura sans doute l'occasion de parler. Mais pour le coup, on a un développement tranquille, quoi. L'idée, c'est de pas dégager des dizaines de terrains d'un seul coup, parce qu'il faut que les infrastructures suivent. Et malheureusement, les finances des communes rurales ne sont pas forcément au rendez-vous pour ce genre de travaux.
Alors vous, Patrick Simon, comment êtes-vous devenu maire? Vous étiez déjà toujours intéressé par le monde associatif, par les responsabilités? Vous étiez au conseil municipal?
Alors pas du tout, hein, c'est pas dans mon ADN. En fait, si vous voulez, j'ai fait l'essentiel de ma carrière, moi, dans l'électricité. J'ai travaillé pendant presque 38 ans au sein de l'EDF-GDF. Puis en 2013, j'ai travaillé sur Paris, j'avais un poste assez prégnant, et donc j'ai décidé de changer un peu, d'orienter ma carrière autrement, et j'ai créé une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc vous voyez, j'étais pas du tout tourné vers les communes. Enfin,
mais en tout cas, on a fait appel à vous, on est venu vers vous pour que vous soyez maire.
Absolument. En fait, quand le maire en place a su que je quittais mes fonctions et que je créais une société plutôt dans le coin, il est venu me voir pour savoir si ça m'intéresserait d'accompagner la commune pour essayer de travailler un petit peu avec lui.
Patrick...
Sauf que donc je suis arrivé sur la pointe des pieds en 2014 en me disant je vais être conseiller municipal et puis je vais voir comment ça se passe, mais je me suis retrouvé déjà premier adjoint à ce moment-là, donc j'ai fait un mandat en tant que premier adjoint, et puis en 2020...
Et puis vous êtes devenu maire en 2020.
Je suis devenu maire, donc l'idée c'est aussi la relation aux autres qui m'intéressait, vous voyez, le sentiment de pouvoir un peu servir...
Être au service.
Améliorer le quotidien de nos habitants,
alors,
surtout je voulais faire évoluer la commune, mais ça on pourra en parler.
Comment peut-on caractériser votre commune aujourd'hui, le type d'activité, les habitants, des personnes âgées, en retraite, des agriculteurs, des jeunes qui s'installent, c'est quoi Bouleuse aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, Bouleuse, effectivement, c'est une commune où, bah, comme beaucoup de communes rurales, il y a un certain nombre de retraités. Mais au travers, je vous dis, les terrains à bâtir qu'on a lâchés en mode un peu diffus, on a réussi à faire revenir des jeunes sur Bouleuse, en fait. Et donc aujourd'hui, c'est une population qui rajeunit, quoi. On a quand même beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, et on a une 30-35 enfants. À peu près dans la commune, ce qui crée un peu d'animation.
Alors, vous avez une école? Non, vous n'avez pas d'école.
Alors non, on est rattaché à un groupe scolaire, hein, juste à côté de Bouleuse, hein, le groupe scolaire de Faverolles. Et du coup, nos plus petits vont à l'école sur ce groupe scolaire. Ensuite, le collège, en fait, c'est eux. Et puis après, le lycée, c'est des lycées.
Alors, hein. Est-ce que vous avez senti, puisque vous êtes arrivé au moment du Covid, qu'il y avait une demande, parce que les logements, les maisons sont quand même moins chers qu'à Reims, des jeunes qui disent, ben, si on a un petit jardin, si on a quand même, si on est, j'allais dire, comme on dit un peu familièrement, à l'air, on sera mieux quand même dans une commune rurale. Il y a des demandes dans ce sens?
Oui, oui. le Covid a changé effectivement un peu la donne. Et c'est aussi en ça que les communes doivent se moderniser. C'est que, alors, c'est fait aujourd'hui presque partout, mais si on remonte il y a 3-4 ans, par exemple, ici à Bouleuse, il n'y avait pas la fibre. Une des principales motivations des gens pour venir habiter à la campagne, et qui plus est maintenant avec le travail à domicile, puisque aujourd'hui le télétravail est quand même particulièrement développé, donc pas question de télétravail sans avoir un réseau internet qui fonctionne bien, quoi. Donc en fait, ça c'est vraiment des travaux que moi j'ai tenu à mettre en place le plus rapidement possible, et effectivement ça a du coup attiré des jeunes couples qui voulaient se sortir un peu des villes, qui cherchaient des terrains. Alors les terrains effectivement sont pas chers à Bouleuse, parce que les propriétaires de ces terrains ne souhaitent pas avoir des prix extrêmement élevés, justement pour contribuer à l'essor de la commune. Quoi.
Alors justement, le temps passe très vite avec vous, oui. Patrick Simon, pour aborder les sujets. Juste une petite question, maintenant c'est les communautés de communes, maintenant c'est le Grand Reims. Est-ce que le maire est toujours un peu, entre guillemets, le patron de la commune? Vous connaissez tout le monde à Bouleuse.
Oui. Alors... Si vous voulez, moi je me suis pas positionné comme maire, comme étant un patron. Et c'est pour ça qu'effectivement, je sais que certains de mes confrères se disent qu'ils ont perdu plein de pouvoir. Vous savez, dans nos communes rurales, les possibilités financières ne sont pas
infinies,
quoi. Mmh. Eh ben oui. Donc pour le coup, être dans une communauté de communes, et notamment le Grand Reims, ça m'a permis quand même de passer des dossiers extrêmement importants. Qu'on n'aurait pas pu mettre en place sans être intégré dans une communauté.
Alors, avez-vous justement, je vous interromps un peu, parce que le temps passe très vite, Patrick Simon,
oui.
Avez-vous des projets en cours, à moyen ou à long terme, pour la commune? On imagine la voirie, on imagine peut-être d'autres sujets.
Voilà. Alors effectivement, on vient de terminer des gros travaux. J'ai réussi à faire passer le dossier d'assainissement collectif, qu'on appelle pompeusement tout à l'égout, dans une petite commune rurale. On a fait des travaux de renouvellement d'eau potable, parce que le rendement du réseau était plus que médiocre et il y avait des fuites partout. Donc, par les temps qui courent, c'est bien aussi de pouvoir faire des économies. J'ai fait refaire de la voirie également. J'ai fait de l'enfouissement de réseau également. J'ai fait amener la fibre dernièrement. Et on a remplacé presque la moitié dans la commune tous les carrages publics par des LED. Paradoxalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour gagner de l'argent, à terme, il faut investir aujourd'hui. Quand des ouvrages sont trop vieux, si on prend le cas pour l'eau par exemple, s'il y a des fuites partout, c'est pas en vous appuyant sur un réseau d'eau vieillissant que vous allez...
Et certains maires nous disent, Patrick Simon, par exemple, quand vous poserez du goudron. Autrefois, on mettait dans un village du goudron, sur la route, les trottoirs, on s'en fichait un petit peu. Maintenant, il y a l'environnement, il y a le développement durable. Vous essayez quand même peut-être de mettre des plantes, de la végétation.
Ces jeunes couples
qui viennent, ils sont attachés aussi à tout ça maintenant, c'est très important.
Ils sont très attachés à tout ça. Alors, on travaille, si vous voulez, moi, dans la commune, j'ai réparti correctement les charges. Si vous voulez, je travaille pas tout seul. On est une équipe assez dynamique. Alors, moi, je m'occupe, vous l'aurez compris, du développement communal, des perspectives d'avenir et de tout ce qui pourra ramener de la population à Bouleuse. Mais mon premier adjoint, lui, gère tout ce qui est opérationnel et s'occupe de notre ouvrier communal. Et on a un deuxième adjoint qui s'occupe de toute la partie environnement. Et on est dans le parc régional de la montagne de Reims.
Ce que je vous propose, Patrick Simon, on n'a pas le temps, puisque l'émission s'achève dans moins d'une minute, c'est de nous donner un autre rendez-vous dans quelques semaines pour que vous prolongiez votre réflexion. Simplement, la question qu'on pose à tous les maires, tous les jours, on a un maire d'une commune, et la même question pour terminer, Patrick Simon, est-ce que vous êtes un maire heureux?
Alors, heureux... Je ne sais pas si c'est le terme qui convient vraiment, parce que on est quand même assez contraint dans ce type de...
Il y a toujours des gens qui rouspètent dans une commune. Il y a aussi des gens qui vous encouragent. Alors l'un dans l'autre, c'est la vie, ça.
Écoutez, non, j'ai la chance dans ma commune d'avoir des habitants qui sont très 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 sympathiques.
Comment
très
s'appellent les habitants de Bouleuse, Patrick?
Les Bouleusiens.
Et les Bouleusiennes et les Bouleusiens, ils vous rendent heureux comme maire quand même. Vous êtes contents.
Ils sont franchement très sympas. On a fait 2 ans de travaux là, je peux vous dire qu'ils ont été très très sympas. Ils ont accepté les choses. Ils ont bien vu qu'on développait le village également, mais... Vous savez, heureux, c'est pourquoi pas, mais en fait, je suis surtout content de pouvoir représenter nos habitants.
C'est déjà pas mal. Hein. Merci en tout cas.
Surtout de défendre la position et le développement du village, c'est ça ma principale préoccupation.
Merci en tout cas, Patrick Simon, maire de Bouleuse, merci d'avoir été avec nous. On vous remercie d'avoir été sur RCF aujourd'hui et à très très bientôt. Au revoir.
Je vous en prie, merci à vous.
Effectivement, merci à Patrick Simon, le maire de Bouleuse, cette belle commune dans la Marne. Donc, merci à vous aussi, Jean-Pierre Benoît. On vous retrouvera notamment demain, dès 7h, sur RCF France-Ardenne avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Mais on vous retrouvera également dans le magazine régional demain soir à 18h30. C'est l'heure du journal. Avec les titres de ce jeudi 15 février, à Épernay, des conventions ont été signées entre la ville, l'agglomération, le CCAS et le SDIS51 dans le but de développer l'engagement citoyen. Explication. Samedi, l'étoile de Charleville-Mézières joue un match capital, un huitième de finale du trophée Coupe de France à la maison face au double tenant du titre Pays de Fougères. Le club Carolo est dans les starting blocks.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Riche de ses 1200 personnes engagées en qualité de sapeurs-pompiers volontaires et de ses 300 jeunes sapeurs-pompiers, le service départemental d'incendie et de secours de la Marne souhaite poursuivre le développement de l'engagement citoyen en signant cet après-midi des conventions relatives à la disposition d'agents pendant le temps de travail pour les activités de sapeurs-pompiers volontaires avec la ville, l'agglomération et le CCAS d'Épernay. Le lieutenant Jean-Yves Laine nous présente les possibilités de ces conventions.
Dès que le bip est déclenché, le personnel peut se rendre au centre de secours pour intervenir, ou une mission opérationnelle de longue durée et le personnel est autorisé à partir. Il y a aussi la possibilité pour le personnel qui est sapeur-pompier volontaire de partir en formation sur une durée déterminée. 5 sapeurs-pompiers seront concernés par une convention formation qui est définie avec une durée bien appropriée pour acquérir des compétences de manière à pouvoir se former et évoluer pour prendre des responsabilités. Et puis aussi la convention, donc mission opérationnelle, avec la possibilité pour lui de dès qu'on a besoin de ses services, de venir renforcer le centre de secours auquel il est affecté.
Les autorités du SDIS51 remettront aux autorités des différentes structures sparnassiennes le label employeur partenaire des sapeurs-pompiers sous condition.
Il faut un minimum de 8 jours de mise à disponibilité du sapeur-pompier volontaire par l'entité qui signe les conventions. Elle se voit remettre un diplôme signé de monsieur le préfet. Et puis, ça donne de la visibilité à l'entité qui a l'attribution de ce label employeur.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne, une démarche citoyenne volontaire que le SDIS51 souhaite développer davantage. Le Premier ministre Gabriel Attal était en déplacement dans la Marne aujourd'hui. Il est venu à la rencontre des agriculteurs dans une exploitation forestière à Janvilliers, voir si les annonces qu'il a faites il y a quelques jours sont d'ores et déjà appliquées sur le terrain. Le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, était lui aussi en déplacement à l'école élémentaire Charpentier de Reims. Il a participé à l'expérimentation des cours d'empathie, des cours ayant pour but de prévenir le harcèlement scolaire. Cette prévention doit avant tout être permise par l'adoption de comportements prosociaux et des formes positives de communication. Ce samedi, à 20h, sera donné le coup d'envoi d'un rendez-vous basket majuscule à l'aréna de Charleville-Mézières. L'étoile, c'est-à-dire l'équipe masculine de Charleville, reçoit Pays de Fougères en 8e de finale du trophée Coupe de France. C'est la première fois de leur histoire que les Carolo-Massériens atteignent ce stade de la compétition qui rassemble les équipes qui évoluent en National 2 et niveau inférieur. L'ampleur de la tâche est immense. Le club breton de Pays de Fougères, c'est 3 défaites seulement cette saison et une domination sans partage dans sa poule de National 2. C'est aussi le double tenant du titre du trophée Coupe de France. Le coach Jimmy Plogart présente les atouts en faveur de l'étoile.
Déjà, on a la chance du tirage de jouer à domicile. On a une équipe qui est très suivie par le public, par les partenaires, par le club, puisqu'on joue devant un public nombreux à chaque match, ce qui n'est pas le cas partout en National 2. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. Et après, on a une équipe qui travaille bien, qui progresse depuis le début de saison, qui est capable de faire des choses intéressantes, notamment sur le plan offensif. Donc on va jouer une équipe qui est une des meilleures défenses de National 2. Donc le but, ça va être surtout de rester dans nos standards offensifs, sur notre rythme, le tempo qui nous convient, Et après, on aura besoin de tous les ingrédients de réussite, d'adresse, de performance individuelle pour réussir à faire un coup contre cette belle équipe de Fougères.
L'ambition est la même pour le président Luc Torres qui voit en cette rencontre du Trophée Coupe de France l'occasion de vivre une grande soirée festive.
Ça nous a permis de faire une campagne spécifique pour ce match-là. On espère vraiment que la salle va être bien garnie et ça en prend entre les quatre chemins puisqu'on a beaucoup de sollicitations pour venir à ce match-là. Et on va revenir un petit peu sur ce qu'on faisait il y a quelques années quand on était en pro. On est resté sur le même modèle de réception avec des soirées très festives qui ne sont pas seulement liées au basket mais aussi liées au bien-être des spectateurs.
Et que ce soit le président Luc Torres ou le coach Jimmy Plogaert, les deux ont une idée de ce que peut être le match parfait.
Le match parfait, c'est une victoire. Voilà, c'est ça, quelle que soit la façon dont ça se passe, la victoire, c'est le match parfait. Oui, ce serait vraiment beau de passer ce tour-là à plusieurs titres. D'abord parce que ça nous emmène en quart de finale et ça nous rapproche d'une finale, malgré tout, même si le quart de finale, c'est pas la finale.
Le match parfait, c'est une qualification, donc avec une victoire finale de l'étoile. Et si on doit choisir sur un match qui nous correspond, donc sur un match plutôt offensif, j'espère qu'on sera capable d'avoir notre production offensive habituelle et même de sublimer encore plus sur ce genre de rendez-vous.
Des propos recueillis par la rédaction de RCF France-Ardennes, coup d'envoi samedi à 20h. À noter qu'une qualification en quart de finale permet aussi de bonifier la saison en championnat avec un point supplémentaire accordé aux équipes qualifiées. Avant de refermer ce journal, place à la météo à 18h36 avec notre stagiaire Mélissa Tavares. À quoi s'attendre ce mercredi, Mélissa ?
Demain, la pluie sera présente en Champagne-Ardenne. Pour notre plus grand bonheur, bien sûr, c'est une boutade. Au matin, dans l'ensemble des départements, nous aurons encore des nuages dans le ciel. Nous aurons de bonnes températures où les thermomètres afficheront au minimum 9 degrés et au maximum 12 degrés. L'après-midi, qui dit nuages dit pluie, non pas dans un département, mais dans tous les départements de la Champagne-Ardenne. Pas de changement au niveau des températures, de même que cette météo depuis plusieurs semaines. Demain, nous fêterons les Juliennes. Nous vous souhaitons une belle fête à toutes.
Merci Mélissa, on vous sent blasé par le temps gris et la pluie que vous annoncez depuis plusieurs jours. Promis, ça ira en s'améliorant prochainement, en tout cas, on l'espère. Ainsi se referme le 18-19 en Champagne, le journal du 18-19 en Champagne, mais le magazine régional, lui, continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Avec nous en studio, le père Thierry Bettler est là, vicaire général du diocèse de Reims et des Ardennes. Père Thierry Bettler, bonjour.
Oui, bonjour Alexis.
Vous étiez cet après-midi du côté de la Neuville en Tournafuie pour célébrer les obsèques du père Nicaise Rousseau qui nous a quittés à 87 ans. On a évidemment une pensée émue pour sa famille, pour ses proches, pour les prêtres, les religieux, les religieuses du diocèse qui l'ont côtoyé. Le père Nicaise Rousseau qui vient de la Neuville en Tournafuie, là où vous avez célébré ses obsèques, c'est un village qui, dans l'histoire du diocèse de Reims et des Ardennes, père Thierry Bettler, a quand même... j'allais dire, un lien très fort avec...
Ah, c'est une pépinière. Je pourrais presque dire un séminaire au sens littéral du mot. C'est-à-dire que c'est vraiment une pépinière de vocation avec plusieurs familles chrétiennes, nombreuses pour certaines, qui ont donné des prêtres, dont la famille Rousseau. Nicaise avait deux frères prêtres, hein, Léon et Benoît. Une sœur, Marie-Claire, qui n'était pas religieuse, mais qui s'est donnée toute sa vie au service de l'Église, que certains ont bien connu du côté de Tinqueux, ou aussi dans cette maison et dans la radio. D'autres familles, je pense à la famille du père Largué, je pense à la famille du père Gantelet, je pense à la famille Bourrin. Ouais, je pourrais les citer comme ça. C'est étonnant, ce village, qui a été vraiment un lieu où les vocations ont pu germer, et Nicaise et un de ses enfants. Et donc c'est quelque part aussi un accent de grâce pour tout ce qui a été vécu là-bas que nous avons célébré cet après-midi.
Le père Nicaise Rousseau qui a eu un ministère rempli d'aventures, on peut le dire comme
ah,
ça.
Ah oui, c'est pas mal le mot aventure. J'aime à dire, les auditeurs qui m'écoutent peuvent savoir que j'ai bien connu Nicaise dans le ministère, dans une partie au coin de son ministère, mais le père Nicaise Rousseau j'aime bien dire trois grands temps de son ministère de prêtre.
Comment voulez-vous les découper ces temps, Thierry?
Ah oui, on va essayer. On va essayer parce que quand c'est riche comme ça et vous avez employé le mot aventure, il colle bien. Il a commencé à être nommé jeune prêtre de mémoire en 1963 dans la vallée de la Meuse. Alors qu'il est originaire d'une autre partie des Ardennes, plutôt dans les plaines du côté de Rethel, de Geneville. Il arrive dans la vallée de la Meuse, il est confronté tout de suite à la situation ouvrière de la vallée de la Meuse dans les années 60. Je ne sais pas si certains peuvent imaginer ce que ça veut dire, les usines qui fonctionnaient à plein, les grands mouvements sociaux. Et il est arrivé vicaire à Revin avec le père Jules Massin, ça va évoquer pour les anciens des choses. Et il a découvert cette réalité, les injustices qui sont... En tout cas, il a épousé la cause ouvrière jusqu'à aller demander à être prêtre au travail.
J'allais dire, il en a fait un de ses combats, cette cause ouvrière.
Ouais, combat et le mot. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait du militant dans Nicaise, hein, et avec tout ce que ça veut dire. Quand il parlait des combats contre la chair, une usine qui avait des mouvements sociaux très forts, ou contre la centrale nucléaire de Chaux, on est dans ces périodes-là. Oui, c'était un battant, un militant, au sens presque littéral, hein, la milice. Hein. Mais je crois que surtout, il y avait quelque chose de prophétique dans l'action de Nicaise, et en tout cas, oui, il en a fait son apostolat.
Vous nous avez dit, Père Thierry Bettler, que vous avez envie de découper son ministère en trois grandes parties. On vient d'avoir une première.
Alors, première partie, vingtaine d'années dans la vallée de la Meuse, prête au travail, habitant au quartier du Charnois en immeuble, sur un palier où en face de lui, il y avait une famille portugaise qui a aussi compté la famille Carvalho, avec Lucinda et Domingos. Si ses enfants m'entendent ce soir, je les ai vus tout à l'heure, c'est vraiment une page importante. Deuxième grande partie, ben voilà, Nicaise demande à partir fédédonum, c'est-à-dire prêtre prêté, comme on dit, ou envoyé, don de la foi, en latin, hein, en Argentine, et là, 10 ans en Argentine, qui là aussi l'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et il a découvert d'autres formes d'injustice. Là, c'est le moment de la dictature, c'est les moments un peu durs dans l'Argentine. Là aussi, le prophète qu'il était a pu s'exprimer d'une autre manière. En tout cas, bien sûr, moi, je ne l'ai pas connu en Argentine, mais je l'ai connu à son retour, et c'était visible, ça s'entendait presque chaque conversation, il nous parlait de l'Argentine.
C'est aussi pour ça que vous êtes légitime, Père Thierry Bettler, pour venir nous en parler de cette histoire, parce que vous partagez quelque part ses mémoires qu'il vous a lui-même transmises.
Alors, excusez-moi ou pardonnez-moi de mettre ça avec un jeu, mais avec beaucoup d'émotion, croyez-moi. Et que Nicaise revient en 93 à Givet, puis après il ira à Vireux, enfin, dans la vallée de la Meuse, qu'il connaissait bien. Et à ce moment-là, le père de foi m'envoie jeune prêtre, 96. À fumer. Donc, quelque part, Nicaise a été, comme responsable de secteur, on disait à l'époque comme ça, a été celui qui m'a accueilli dans le ministère, qui m'a formé à mon métier de pasteur. Et puis, donc, j'ai entendu tous ces témoignages sur les histoires ouvrières de la vallée, sur l'Argentine. Et puis, surtout, 96, ça doit résonner dans nos oreilles, c'est la démarche synodale pour les paroisses nouvelles. C'est la mise en place de la réforme sur ce qu'on appelle justement les paroisses nouvelles. C'est avec lui, avec Philippe Lan, qui est avec nous cet après-midi, avec Paul Monceau, que nous avons mis en œuvre tout ça. Et là, il y avait, là aussi, de la part de Nicaise, j'ai vu le pasteur sur le terrain.
Père Thierry Bettler, on a vu deux grandes parties du ministère du Père Nicaise Rousseau. Quelle est la troisième?
La troisième partie, c'est le retour. Pasteur à Givert, Vireux. Et puis, je vais retrouver Nicaise parce que ça, c'est le Père Jordan qui me demande de rejoindre Reims, la banlieue sud de Châtillon-Murigny. Et 2 ans après, Nicaise me rejoint à Saint-Bruno, c'est-à-dire Croix-Rouge. Et donc, on va retravailler ensemble pendant presque encore une dizaine d'années ensemble. Si je compte la vallée et Reims, tant que sa santé et ses forces lui permettaient. Après là, donc, c'est la troisième grande partie de ce pasteur qui prend sa part avec toute son histoire et sa sensibilité à la mise en place des paroisses nouvelles. Ouais.
Et après son ministère, le père Nicaise Rousseau, il est resté dans le diocèse de Reims et des
oui,
Ardennes.
Oui, la santé commençait à lui poser des soucis.
Il a eu un long combat contre la maladie.
Ouais, il s'est vraiment battu contre la maladie. Et ce combat, il l'a mené à Sedan, en fait, où il avait été envoyé comme prêtre auxiliaire, c'était la formule du moment, prêtre aîné qui vient en soutien, où il y avait déjà Jean-Pierre Laurent, puis après il y avait Bruno Wayet qui était là. Et donc là, il a donné un autre témoignage. Donc, je ne dis pas une troisième partie de son ministère, mais vraiment un temps fort de son témoignage là de prêtre, certainement, parce qu'il a fait de l'accompagnement à beaucoup de personnes, accompagnement spirituel, et puis surtout le témoignage d'un disciple du Christ qui veut montrer ce que l'Évangile fait dans nos vies.
Et après Sedan, le père Nicaise Rousseau, il a passé ses 2 dernières années du côté de Reims.
Voilà,
à la maison Nicolas
Roland. Ça a été un petit peu difficile pour lui. Je sais bien, je le comprends. Il a rejoint la maison Nicolas Roland avec d'autres prêtres aînés, et puis il s'est fait solidaire de nos aînés. Et c'est là que le Seigneur a accueilli dans sa lumière.
Père Thierry Bettler, évidemment beaucoup d'émotions pour vous aujourd'hui avec les obsèques qui ont été célébrées cet après-midi du père Nicaise Rousseau. On l'a bien compris, vous l'avez croisé tout au long de votre ministère en tant que jeune prêtre jusqu'à aujourd'hui, père Thierry Bettler. Ma question, c'est pas une question piège par rapport à tout le parcours, toutes les aventures que vous avez racontées du père Nicaise Rousseau. Si vous aviez une chose à retenir du père Nicaise Rousseau, qu'est-ce que vous auriez envie de ressortir comme témoignage devant nos auditeurs?
C'est ça. Vous avez raison de dire qu'il y avait de l'émotion. Spontanément, et je serais pas le seul à le dire, il y avait du prophète, au sens la parole forte qui nous exhorte dans le ministère et dans l'apostolat de Nicaise et dans ce qu'il a voulu vivre avec nous. Mais ce prophète, en fait, était nourri du disciple, quelqu'un qui nourrissait sa vie spirituelle, donc son apostolat, de sa relation au Christ. Et vous savez, le texte qu'il nous a proposé à lire et à méditer cet après-midi à ses obsèques, c'est le 2e chapitre des Philippiens qui nous fait contempler le Christ qui descend dans la mort pour être glorifié par Dieu avec son introduction. Ayons les mêmes dispositions qu'il nous faut avoir dans le Christ. C'est vraiment cela qui nous laisse contemplant le Christ pour être des disciples.
Merci, Père Thierry Bettler, d'être venu sur le plateau de RCF rendre cet hommage au Père Nicaise Rousseau. Et puis, on a de nouveau une pensée émue pour tous ses proches, sa famille, les prêtres, les religieuses, les religieux du diocèse de Reims et des Ardennes, mais d'autres diocèses à travers le monde qui l'ont fréquenté, bien évidemment, en Argentine également.
Le diocèse de Guilmes, qui doit aussi avoir une pensée pour lui aujourd'hui.
Eh bien, on pense tous à lui, au Père Nicaise Rousseau, et on vous dit à très bientôt, Père Thierry Bettler.
Merci, Alexis.
Le 18-19 sur RCF.
18h45, comme chaque année, l'association Action Culturelle de Saint-Mémy près de Châlons en Champagne organise une soirée théâtre au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose, et comme chaque année également, la troupe de comédiens amateurs Les Saribiens se mobilise pour la bonne cause. Pour nous en parler, Pascal Leblanc, Francis Averdin avec Christopher.
Pascal Leblanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Action Culturelle de Saint-Mémy, accompagné de Francis Faverdin, ancien président de l'association Vaincre la mucoviscidose. Bonjour.
Bonjour.
Merci messieurs d'être avec nous dans les studios de RCF Cœur de Champagne pour présenter ce bel événement, cet après-midi théâtral au profit de la mucoviscidose. Un enjeu très important, on sait que les choses s'améliorent, il y a des recherches qui sont en cours, mais c'est jamais suffisant, on est toujours encore loin du compte si je peux dire.
Tout à fait, on ne guérit pas encore de la mucoviscidose, c'est une maladie génétique, on est avec la mucoviscidose. Ça fait bientôt 60 ans que l'association existe, ça fait 40 ans que les recherches ont pu débuter grâce à la génétique moderne, et ça fait 3 ans qu'on a un médicament qui améliore la situation pour une partie de nos patients. Mais il reste près de 900 patients qui sont transplantés et qui, eux, restent dans une situation qui est un peu épée de Damoclès pour chacun d'entre eux. Et puis on a, chez ceux qui ne sont pas transplantés, un bon millier aussi de patients qui n'ont pas des mutations qui réagissent à ce nouveau médicament. Donc voilà, il faut qu'on continue de se mobiliser, et on voit que la durée, le temps est nécessaire pour gagner ces parcelles de progrès. Et c'est pour ça que c'est formidable d'avoir la pérennité dans le soutien à notre cause.
Continuer à se mobiliser, à sensibiliser le grand public autour de cette maladie qui est la mucoviscidose. Alors c'est pourquoi, depuis 1996, l'association Action Culturelle de Saint-Mémy, en collaboration avec le groupe théâtral, la troupe théâtrale Les Sarébiens, organise des événements au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, Pascal Leblanc, parlons un petit peu de votre association Action Culturelle de Saint-Mémy qui ne date pas d'aujourd'hui.
Voilà. Donc l'association Action Culturelle est fondée en 1987. Elle a pour but de favoriser les échanges et les actions afin de promouvoir la culture dans la commune de Saint-Mémy. Donc ces activités sont 2 cours de peinture sur toile, 1 cours de peinture sur porcelaine, 1 de sculpture modelage, un atelier libre, du Scrabble, du Bridge, un club de lecture, des conférences sur l'art et thématiques, l'eau, l'énergie et autres, des sorties d'une journée 5 à 6 fois par an, pour visites et spectacles, et un voyage annuel en Europe. Et pour finir, un théâtre au profit de la mucoviscidose.
C'est ce que j'allais vous dire. Et il y a aussi cet événement théâtral au profit de la mucoviscidose, puisque depuis 29 ans, votre association et la troupe théâtrale Les Sarébiens organisent des événements, des spectacles au profit de la mucoviscidose. Pourquoi un théâtre, Pascal Leblanc ?
Au départ, Madame Danielle Pavé, présidente de l'association et institutrice, avait une élève atteinte de cette maladie. Elle fut très touchée par la maladie de cet enfant.
Oui.
L'idée du théâtre correspond le mieux aux attentes de l'association. Dès 1996, le conseil d'administration organisa, avec la troupe de théâtre Les Sarébiens et M. Cochinard Daniel, une matinée théâtrale dont les bénéfices reviendraient à l'association Vaincre la mucoviscidose, et cela depuis 29 ans.
Depuis 29 ans, alors j'imagine que pour vous, Francis Faverdin, en tant que ancien président, mais en tout cas, vous êtes toujours mobilisé. On vous connaît aussi pour l'événement qu'on présente tous les ans sur les ondes de RCF, les virades de l'espoir. Hein. On en parlera dans les prochaines semaines. Mais en tant que casquette d'ancien président de l'association Vaincre la mucoviscidose, j'imagine que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel d'organiser un tel événement pour la cause.
C'est vrai que c'est un cadeau extraordinaire pour notre association d'avoir comme ça, clé en main, une manifestation organisée. Nos bénévoles sont comptés. Et quand on a une association structurée qui nous permet d'économiser un peu nos bénévoles, c'est formidable. Et puis, c'est une occasion de sensibiliser un public large. Il y a 600 places dans ce théâtre. Ça permet, dans la durée, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en a besoin de financer des actions en matière de recherche. L'humour, pour parler d'une maladie grave, ouais, n'empêche pas...
De rire.
De rire, voilà, et de savoir pourquoi on rit. Oui. Voilà.
Alors, ce rendez-vous aura lieu le 18 février prochain. Pascal Leblanc, présentez-nous un petit peu l'organisation de cette journée qui aura lieu du côté de Saint-Mémy, j'imagine.
Ah non, à la
Même
Comète.
Pas. À la à Comète, Chalon. D'accord. Donc, à la Comète, voilà. Depuis cette année, depuis plusieurs années.
Comment le théâtre a eu lieu pendant 5 ans. Et après, comme on n'avait pas assez de place, et puis les gens préfèrent avoir un confort. Donc, l'idée a été de choisir la Comète pour faire ce théâtre.
Oui,
et l'avantage aussi, c'est qu'on a quand même pas loin de 600 places.
600 places, oui. Une belle infrastructure, voilà, pour accueillir le grand public à cet événement.
Voilà.
Comment va être organisé? Il va y avoir plusieurs pièces de théâtre?
Donc, on va avoir deux pièces de théâtre qui sont Gros Camion et La Boulette. Ça va avoir lieu le 18 février à 15h. L'entrée est de 15€.
D'accord.
Qui permet. Et à travers ces organisations, les bénéfices sont remis à l'association caritative Vaincre la mucoviscidose. Pour information, depuis le départ, depuis 29 ans, nous avons pu donner 86 400 €.
86 400 €
à l'association Vaincre la mucoviscidose.
Là, on voit le sourire de Francis Favardin quand on entend cette somme, en se disant ce sont de belles opérations qui sont organisées en local.
Vraiment, oui, tout à fait. C'est une belle opération. Et les Sarribiens sont fiers de jouer parce qu'ils font beaucoup de choses pour d'autres associations.
Bien sûr, bien sûr.
Et ils aiment bien là jouer à la Comète parce que c'est un cadre quasi professionnel pour ces comédiens amateurs, et ça donne un sens différent, une qualité toute particulière à ces deux pièces jouées à la Comète.
À noter, Pascal Leblanc, que les billets sont déjà en vente à plusieurs endroits de Chalon-Champagne.
Voilà, les billets sont en vente à plusieurs endroits, du moins un seul pour le moment, qui est l'Office du Tourisme.
L'Office du Tourisme de Chalon-Champagne.
Et après, ce sera à l'entrée du spectacle où vous pouvez acheter les billets.
Le 18 février, donc, deux pièces de théâtre des Sarribiens en collaboration avec l'association Action Culturelle de Saint-Mémy au profit de l'association Vaincre la Mucoviscidose. Ne manquez pas donc ce rendez-vous du côté de la Comète le 18 février, dimanche 18 février à 15h. Merci beaucoup Pascal Leblanc d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF.
Merci.
Vous êtes le président de l'association Action Culturelle de Saint-Mémy. Merci également Francis Favardin de nous avoir accompagnés, ancien vice-président de l'association Vaincre la Mucoviscidose. Covicidose. On vous retrouve très bientôt pour parler des Virades de l'Espoir.
Virades, le dernier dimanche de septembre, comme d'habitude, voilà, dans plusieurs endroits dans la Marne.
Voilà, on ne manquera pas ce rendez-vous sur les ondes de RCF en région. Merci messieurs, à très bientôt.
Merci.
Et merci à vous, Christopher. Les Sarribiens vous présentent Gros Camion et La Boulette ce dimanche à 15h à la Comète de Chalon. Tous les bénéfices seront reversés au profit de l'association Vaincre la Mucoviscidose.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
À 18h53, on finit par du sport et on retrouve l'entraîneur de l'Étoile, Jimmy Plogaert. Coach, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous présenter ce rendez-vous samedi, ce 8e de finale. Est-ce que c'est pour l'instant le rendez-vous de la saison?
Oui, c'est un match très important comme tous les autres, mais c'est sûr qu'arrivé à ce stade de la compétition, on se rapproche du rêve ultime qui est de jouer une finale à Bercy. Donc on est sur un rendez-vous très important pour l'équipe et pour le club.
Un rendez-vous très important, d'autant plus que Pays de Fougères, c'est une équipe qui, j'allais dire, dégomme tout à la fois au palmarès du Trophée Coupe de France, mais aussi en N2 qui est une équipe presque invincible.
Ouais, c'est une équipe qui est double tenante du titre du Trophée Coupe de France, qui est dans le très haut du classement depuis de nombreuses années en National 2, qui veut absolument monter en National 1, qui perd pas beaucoup, mais qui perd quand même de temps en temps, et en particulier à l'extérieur. Ils ont 3 défaites cette saison sur 3 matchs à l'extérieur, dont une il y a 15 jours dans le Nord à Grande-Synthe. Donc voilà, nos motifs d'espoir sont là, et on veut montrer que l'Étoile, on est capable de rivaliser avec ces top équipes de National 2.
Alors peut-être pas nous révéler le plan de jeu, coach Jimmy Plogaert, mais peut-être nous expliquer voilà, quelles sont les armes, quels sont les atouts que l'Étoile a dans sa poche pour pouvoir créer la sensation et s'imposer samedi.
Déjà, on a la chance du tirage de jouer à domicile. On a une équipe qui est très suivie par le public, par les partenaires, par le club, puisqu'on joue devant un public nombreux à chaque match, ce qui n'est pas le cas partout en National 2. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. Et après, on a une équipe qui travaille bien, qui progresse depuis le début de saison, qui est capable de faire des choses intéressantes, notamment sur le plan offensif. Donc on va jouer une équipe qui est une des meilleures défenses de National 2. Donc le but, ça va être surtout de rester dans nos standards offensifs, sur notre rythme, le tempo qui nous convient. Et après, on aura besoin de tous les ingrédients de réussite, d'adresse, de performance individuelle pour réussir à faire un coup contre cette belle équipe de Fougères.
Et comme vous le dites, ces ingrédients, finalement, en ce moment, vous les avez plutôt de votre côté, puisque vous êtes sur une belle série. Cette victoire sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même quelque chose qui permet d'accumuler un capital confiance avant ce genre de rendez-vous.
Ouais, bien sûr, on a une équipe qui, comme je l'ai dit, qui travaille bien, qui est en confiance, qui est de plus en plus sûre du basket qu'on met en place et qu'on propose. Donc il faut essayer de surfer sur cette vague. Après, c'est des matchs où tous les détails vont compter, donc faut être capable aussi de se sacrifier, de se jeter sur tous les ballons, de prendre conscience que chaque possession, chaque ballon est important des deux côtés du terrain, et voilà, amener un petit supplément d'âme, un petit supplément de motivation. Mais surtout pas de pression, c'est aussi une fête pour le club, c'est une fête pour la ville, donc profitez aussi de ces instants-là, et quoi qu'il arrive, finir la tête haute et tout faire pour avoir la victoire, en espérant que ça soit suffisant pour l'obtenir.
On entend bien que vous voulez mettre l'accent sur le côté festif, mais si on se réfère aussi sur le point de vue sportif, il y a un enjeu au-delà de la qualification qui permet, si je ne dis pas de bêtises au niveau du règlement, de prendre un petit point supplémentaire pour ensuite le championnat, ce qui pourrait permettre aussi de relancer peut-être la dynamique de l'Étoile, de prendre ce point qui pourrait vous permettre de voir plus haut pour la fin de saison aussi dans ce championnat de National 2.
Ah oui, c'est sûr, c'est un point bonus qui peut nous faire basculer vraiment dans la course au play-off, même si notre bonne série nous a un petit peu relancé. Après, quand je dis festif, c'est qu'il faut profiter de ce moment, mais la fête ne sera que plus belle avec la victoire. Aujourd'hui, on se concentre surtout sur le match, sur le fait de le gagner pour passer ce tour de Coupe de France. On sait qu'il y a le point bonus, mais à nouveau, faut pas se mettre de pression là-dessus. Faut déjà penser à jouer, faut penser à être performant. Après, ce point bonus, il peut effectivement changer notre fin de saison en nous relançant dans la course et aussi en nous donnant l'opportunité de jouer aussi après le plateau carré demi-finale de la Coupe de France, qui peut nous emmener sur une finale à Bercy, mais qui peut aussi nous amener un deuxième point bonus. Donc c'est sûr que c'est une étape qui peut être très importante et même un moment qui peut être bascule dans notre saison et dans la course aux play-offs.
On imagine que tout le collectif, tout le club est mobilisé autour de cette affiche et sur cette fin de saison. Avec les éléments que vous nous donnez, comment on les transmet à son vestiaire, à ses joueurs? C'est quoi le discours qu'il faut avoir? Est-ce qu'on a un discours, j'allais dire, plutôt agressif, c'est la chance ou jamais? Est-ce qu'on est plutôt posé? C'est quoi le caractère? Quelles sont les émotions que vous avez envie de transmettre à votre collectif, coach?
Alors après, les émotions sont propres à chacun. Chacun vit ses moments différemment. Moi, ce que je pense que ce qui rassure une équipe, ce qui rassure un groupe, c'est aussi la stabilité. On a l'habitude de bien préparer les matchs, de beaucoup analyser le jeu de l'adversaire, d'essayer de trouver des situations où nous on va pouvoir les embêter, de préparer aussi les situations qui pourraient nous poser problème pour pouvoir y répondre des deux côtés du terrain. Après, il y a ce côté motivation. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand on est compétiteur comme on l'est tous, c'est des matchs où forcément on est très motivé, on espère avoir du monde dans la salle. Donc il y a un mélange de tout ça, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il y a un mélange de sérénité, de contrôle, mais il faut aussi ce petit grain de folie et cette chance à saisir qui se présente pas déjà tous les ans. Jouer un huitième de finale de Coupe de France, c'est pas tous les ans. Jouer le double de tenant du titre, c'est pas tous les ans. Et encore une fois, on a la chance de jouer ce match à domicile, donc il faut vraiment mettre tout ce qu'il faut en même temps pour aller chercher le meilleur résultat possible.
Si vous aviez une boule de cristal, coach, c'est quoi le match parfait samedi?
Le match parfait, c'est une victoire à la fin, déjà, parce que c'est propre à la compétition et qui plus est à la Coupe de France, hein, où c'est une élimination directe. Donc le match parfait, c'est une qualification, donc avec une victoire finale de l'Étoile. Et si on doit choisir sur un match qui nous correspond, donc sur un match plutôt offensif, j'espère qu'on sera capable d'avoir notre production offensive habituelle et même de sublimer encore plus sur ce genre de rendez-vous.
Eh bien, en tout cas, un grand merci. C'est tout ce que l'on vous souhaite à l'Étoile de Charleville-Mézières de sortir samedi soir du parquet avec la qualification en poche pour les quarts de finale. Un grand merci, coach Jimmy Ploguer, d'avoir pris ce temps de répondre à nos questions dans une semaine aussi importante pour le club. Et on vous dit à très bientôt. On croise les doigts.
Merci à vous. À bientôt.
Et à 18h59, il est l'heure de remercier nos auditeurs pour votre fidélité. On vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain à 18h10 avec Mélissa Tavares qui sera toujours là.
Bah, bonne soirée à vous et à demain.
Et avec Fabrice Gironnet qui sera là aussi pour la mise en onde dans quelques instants. C'est l'information nationale. À demain, 18h10, dès 7h sur RCF en Sardaigne. Jean-Pierre Benoît, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.